Et on va parler d'éducation maintenant. Le district scolaire francophone sud s'est dit dernièrement satisfait de certains projets annoncés dans le budget du gouvernement provincial du Nouveau-Brunswick, mais reste inquiet concernant d'autres dossiers majeurs. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la ministre de l'Éducation, c'est Claire Johnson qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous avez une réaction quant aux préoccupations formulées par le district scolaire francophone sud, notamment en ce qui concerne, pour le coup, les annonces positives de Mathieu Martin, l'école Sainte-Anne et de la nouvelle école de Woodstock pour commencer?
Oui, absolument. Nous reconnaissons que les besoins sont grands en infrastructure dans la province, puis qu'on réalise aussi qu'on ne sera pas capable de répondre à tous les besoins maintenant. Ça fait, faut vraiment faire des choix difficiles, faut mettre des ressources à des certaines places, alors que on sait que les gens aimeraient qu'on soit capable de d'investir partout tout de suite, mais qu'il faut avoir un plan, puis il faut aller de l'avant avec le plan. Ça fait que la réaction ne me surprend pas. Je m'y attendais que les gens sont généralement heureux, mais auraient souhaité qu'on fasse plus. On peut toujours souhaiter de faire plus, mais vraiment, ce gouvernement ici investit beaucoup en infrastructure et en éducation. Les investissements sont 25 % de plus cette année que l'année précédente. Puis, je voudrais aussi faire un petit rappel à vos listeners, à vos auditeurs, que il y a les nouveaux projets qu'on annonce, puis on met beaucoup, beaucoup d'emphase puis d'attention sur les nouveaux projets qu'on annonce, mais il y a encore ceux de l'année dernière qui sont encore en progression, qu'on doit aussi investir dans ceux-là. Ça fait qu'on a comme... Puis à chaque année, on ajoute d'autres et d'autres et d'autres. Ça fait faut pas oublier ceux-là qui sont en cours de les années précédentes également, là. Ça fait que c'est pas seulement les nouveaux projets, c'est aussi ceux-là qui sont en cours.
Parmi les dossiers un peu urgents, d'après le district, on parle de notamment l'Odyssée qui sera à pleine capacité dans 2 ans, dépassé de 300 élèves dans 5 ans. Qu'est-ce qu'on attend pour réagir par rapport à ces situations-là?
On est conscient que les besoins grandissants sont un peu partout, en particulier dans la région de Moncton où on a connu une croissance démographique supérieure au reste de la province. C'est là où la population a augmenté le plus dans les dernières années. Ça fait ça vient avec son lot de défis, des bons défis à mon avis. C'est merveilleux que les gens veulent venir s'installer au Nouveau-Brunswick, mais je dirais que dans la matrice, qui est notre outil à évaluer les besoins de façon objective, non partisane, tient compte de la croissance démographique. C'est un des indicateurs qui a beaucoup de poids dans la matrice. Ça fait que je suis confiante qu'on va se rendre à ce projet-là, comme qu'on va se rendre à tous les autres projets qui sont présents dans la province en temps et lieu. Ça prend un petit peu de patience parfois, mais moi je fais confiance à notre outil, puis je fais confiance à nos indicateurs, puis on va se rendre à l'école Odyssée parmi d'autres projets lorsqu'on sera capable de s'y rendre.
Dans les autres urgences, il y a aussi Samuel de Champlain, il semblerait. On est rendu à, je crois, 6 ou 8 classes mobiles aujourd'hui, des gymnases qui sont très très occupés. Le district tire la sonnette d'alarme depuis longtemps par rapport à Samuel de Champlain. Qu'est-ce qui fait que, alors que c'était en tête des priorités de district, c'est pas arrivé en tête des priorités du gouvernement?
Oh, moi, je dirais que c'est en tête de priorité au gouvernement aussi. Si qu'on regarde la liste stable, Samuel de Champlain serait en lien pour un financement, serait enligné pour un financement l'année prochaine, qui est un autre avantage de notre matrice, où ce qu'on est capable de prévoir, c'est quoi les projets qui s'en viennent aussi. Ça fait ça donne une certaine stabilité, puis ça peut donner une direction au niveau du district, puis au niveau de la province, à savoir où sont nos priorités, puis où est-ce qu'on va s'enligner dans les années à venir. Puis ça, c'est certain qu'on attend la confirmation budgétaire au moment que ça sera approuvé de façon formelle, mais on a quand même, c'est dans nos planifications, c'est dans nos plans, puis ça, on le partage publiquement. Puis aussi, je peux vous dire que nous sommes très proactifs comme gouvernement, puis des fois, nous allons même commencer la phase de planification avant nécessairement que l'annonce a été faite formellement, juste pour être très, 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 très proactif, là, pour être capable de d'aller plus rapidement encore lorsque c'est possible. Parce qu'on veut vraiment que notre processus soit le plus efficace possible.
Est-ce qu'on sait déjà quelles écoles pourraient être concernées par le fait d'anticiper ce démarrage?
Absolument. La liste STAB est disponible sur notre site Web. On a tous les projets qui ont été approuvés cette année avec la liste STAB pour l'année prochaine. Ça fait si qu'on sait qu'on fait en moyenne 6 projets par année. On peut deviner qu'est-ce qui va être la suite pour l'année prochaine. Ça fait que les gens peuvent commencer à planifier déjà.
Parce qu'aujourd'hui, on a des endroits où c'est environ 15% des élèves qui ne sont pas dans des vraies classes. Est-ce que ce n'est pas c'est pas un déséquilibre pour les élèves, le fait qu'il y en ait certains qui ne soient pas dans des conditions optimales pour pouvoir apprendre correctement à l'école?
Je suis tout à fait d'accord avec cette hypothèse-là. Pour moi, une classe mobile, c'est quand même un milieu d'apprentissage acceptable et propice à l'apprentissage.
Même s'il n'y a pas d'accès aux sanitaires et que c'est compliqué en termes de gestion logistique au quotidien.
Il y a un accès aux sanitaires. Je pense que vous êtes en train d'écrire une situation très particulière qui est arrivée avec un retard au niveau de la construction du couloir des classes mobiles à l'école. Puis ça, c'était une situation qui était prioritaire puis urgente. On a agi très rapidement à ce niveau-là parce que les classes mobiles, on veut idéalement qu'ils soient liées à l'école le plus possible ou qu'ils soient indépendantes, mais les classes mobiles sont quand même des solutions temporaires acceptables. Je veux juste être claire avec ça. On reconnaît que c'est temporaire comme situation, mais l'apprentissage est possible dans ces environnements-là.
Alors, il y a quand même aujourd'hui encore des classes mobiles où un élève, s'il a besoin d'aller à la salle de bain, il est obligé, surtout dans ces périodes de froid, de ressortir les vêtements d'hiver, se remettre une couche, rentrer dans l'école et puis aller faire ce qu'il a à faire comme ça. C'est pas aussi simple que ce que vous décrivez pour certaines classes quand même.
OK, ben j'aimerais ça qu'on nous signale ces cas spécifiques-là pour qu'on puisse être capable de les évaluer plus en profondeur.
Pour ce qui est des priorités à venir, qu'est-ce qui s'en vient? Quels engagements on peut déjà donner aux familles de Moncton, Riverview, Saint-Jean qui ont été un peu déçues par les annonces?
Ben, j'inviterais ces familles-là à consulter notre liste STAB sur le site Web qui montre qu'est-ce qui est tous les projets qui s'en viennent dans les prochaines années. Puis j'aimerais aussi faire le petit rappel à tout le monde que les besoins sont grands partout, puis qu'on reconnaît que dans les milieux où il y a eu la croissance démographique, c'est un indicateur puissant dans la matrice qui va faire que les projets vont être placé en priorité, mais il faut parfois être patient. Puis il faut aussi faire la part des choses. Il y a aussi des besoins dans des infrastructures plus vieillissantes dans le nord de la province qui n'ont pas nécessairement connu une croissance démographique comme dans les villes urbaines dans la province. Puis il faut aussi reconnaître les droits des francophones en situation minoritaire, que ça, c'est un autre poids qui est important dans la matrice également parce que je vais faire un rappel aux auditeurs que la section 23 de la Charte des droits et libertés est aussi importante dans notre choix de où est-ce qu'on va investir nos financements pour appuyer une éducation de qualité pour toutes les Néo-Brunswickois.
Alors concernant l'article 23, justement, du côté du district, on dit que l'absence de projet pourrait compromettre le respect de l'article 23, surtout dans les milieux triplement minoritaires pour le coup. Est-ce qu'on a une réponse à ça? Est-ce que le ministère a évalué peut-être le risque de contestation judiciaire?
Absolument. Oui, la section 23 de la Charte des droits et libertés est un indicateur clé au niveau de notre matrice. Puis c'est quelque chose qu'on évalue régulièrement. Puis là, on a accès à des données maintenant qu'on n'avait pas auparavant. À partir de 2021, Statistique Canada a posé des questions pendant le recensement pour identifier qui sont les ayants droit au Nouveau-Brunswick. Puis ça nous a donné des pistes très, très, très intéressantes, des endroits qui sont potentiellement pas suffisamment desservis côté éducation francophone. Puis ça, c'est une Grande inquiétude pour nous, absolument. Puis c'est pour ça qu'on l'inclut dans notre matrice, puis ça fait partie de l'équation. On a des responsabilités d'investir dans les infrastructures existantes, dans le côté francophone, anglophone, dans le nord de la province comme dans le sud de la province. On a aussi comme responsabilité de tenir compte de la croissance démographique, puis les besoins grandissants dans certaines régions. Puis on a également une obligation de protéger les francophones en situation minoritaire parce que notre province est bilingue, puis on a cette obligation-là aussi. Ça fait, vous voyez, les besoins sont grands, nos responsabilités sont nombreuses, puis c'est pour ça qu'on a justement créé l'outil objectif, la matrice, pour être capable d'évaluer tous ces besoins-là, puis le mettre ensemble. Puis il y a aussi les priorités des districts. Ça aussi, c'est tenu compte dans la matrice. Puis c'est pour ça qu'on a confiance dans cet outil-là pour être capable de guider nos décisions.
Est-ce que du côté du gouvernement, on s'attend à ce que les parents des régions, entre guillemets, oubliées, réagissent? Qu'est-ce qu'on veut dire à ces parents qui sont inquiets, découragés de voir les projets encore absents du budget cette année?
J'inviterai les gens à avoir confiance, puis je les inviterai à être patients, puis je peux leur partager que je suis empathique également. La situation que vous avez décrite avec les classes mobiles, c'est des situations que mes enfants ont vécues. Moi, mes enfants, ma circonscription, c'est Moncton Sud. Mes enfants vont dans les écoles publiques à Moncton, qui a connu une grande croissance démographique. Dans mon école, dans l'école où mes enfants vont, ils appellent les classes mobiles les chalets, que je trouve qui est agréable. On essaie de voir ça d'un bon œil. Mon fils était dans les classes mobiles il y a quelques années. Ma fille est dans une classe mobile maintenant. Puis, je dirais que rappelons-nous que le système d'éducation au Nouveau-Brunswick et de première classe, on vend notre curriculum un petit peu partout dans le monde. On a une approche très proactive en termes d'inclusion. Il y a des belles, belles, belles choses qui se passent au Nouveau-Brunswick. Ça fait, je tenterais de faire ce petit rappel-là aux parents, puis de leur dire qu'on est là de tout cœur avec eux, puis qu'on empathise avec la situation, puis qu'on réalise qu'on n'est pas capable de tout faire en même temps. On souhaiterait être capable de le faire, mais avec la situation fiscale qu'on connaît maintenant, il faut être réaliste avec nos investissements. Puis c'est ça, je lancerai mon empathie, puis j'inviterai les gens à être patient avec nous, puis à continuer ce dialogue-là. Si que les gens ressentent des frustrations, je les inviterai à m'en faire part. Je suis là pour écouter, puis pour comprendre, puis m'assurer qu'on répond le mieux possible aux besoins qui sont grands au niveau de notre communauté, puis notre belle province.
Est-ce qu'on peut s'attendre à des annonces avant le prochain budget quand même?
C'est certain qu'il y a des différents. Il y a les budgets en capital, en infrastructure, puis là, il y a aussi des projets majeurs qu'on tente de voir aussi. Il y a des différents types de budgets qu'on va être capable de partager avec les gens afin de voir qu'est-ce que les différents projets. Puis il y a aussi les projets au niveau des districts. Ça fait qu'il y a comme des différents paliers d'annonces au niveau du financement. Puis aussi, il y a les opérations qui est clairement une partie importante du processus budgétaire. Ça fait qu'il va y avoir des petites nouvelles ici et là, mais celle-ci, au niveau des infrastructures puis du capital, je dirais, c'est certainement la plus grande partie des investissements en infrastructures dans nos écoles au Nouveau-Brunswick.
Allez, pour terminer rapidement, en septembre, mise en place des petits déjeuners dans les écoles, il y a des endroits où il semblerait que ça a été un petit peu plus compliqué qu'ailleurs. C'est quoi le bilan pour vous après 3 mois?
On est ravis de rapporter que chaque école a accès à des aliments pour nourrir les jeunes dans chaque école de la province. Puis oui, vous l'avez bien signalé, il y avait certaines places, des régions plus éloignées, des îles, toutes sortes de différentes situations qui ont rendu ça parfois un petit peu plus difficile, mais c'est justement pour ça que c'est si important d'avoir un programme qui est universel afin d'atteindre chaque élève au niveau de la province. Ça fait, je suis vraiment ravie de partager avec vos auditeurs que nous sommes rendus pour les déjeuners, que ça roule. On a eu plusieurs occasions de faire des différentes commandes, des différentes livraisons. Les écoles ont eu la chance de distribuer à leur façon les aliments. Puis, malgré les défis, je les reconnais, en gros, les rétroactions sont très positives, puis les gens sont heureux de ce programme ici. Puis nous, on est ravis comme gouvernement parce que c'était une de nos priorités. Priorité pour la nutrition des jeunes, priorité pour l'apprentissage, puis aussi priorité pour le coût de la vie de nos familles. J'aime faire ce petit rappel-là que c'est une initiative qui aide beaucoup avec le coût de la vie, qui est parfois un petit détail que les gens ont tendance à oublier.
Même dans les écoles où on sait que c'est un peu plus compliqué, moi j'ai vu dans des écoles, des endroits où il y avait juste 3 bananes et 4 pommes à disposition, on considère que c'est une réussite.
Ben, j'aimerais que vous nous signaliez encore une fois s'il y a des cas spécifiques qui sont particuliers comme ceux-là, parce que ce que vous décrivez comme situation n'est pas l'objectif que nous autres on avait en tête.
Est-ce que vous avez prévu de contrôler pour voir si les objectifs sont atteints?
Absolument, oui. Une grosse partie de notre gouvernement, c'est justement d'évaluer les niveaux de satisfaction en termes de la gestion du gaspillage alimentaire, puis ce type de choses-là. Ça fait qu'absolument, on est en dialogue constant avec les écoles, puis on a des excellentes personnes ressources au niveau du ministère pour aider à naviguer ces défis-là, puis justement de vérifier que le programme est à. Et mise en œuvre comme qu'on s'y attendait.
Merci Madame la Ministre.
Merci beaucoup.
Ici Sébastien Caron pour IGL à Fredericton.